Retour vers le passé, une émission proposée par tous les élèves de 5e du collège de Gémozac. Suivez les aventures historiques de nos héros sur les routes de Pau.
Chapitre 6, que la paix soit avec vous.
28 décembre 1178. Hildegard est à Pont pour inaugurer le nouvel hôpital. Isabelle et les garçons testent Enguerrand, qui n'a pas pu leur prouver sa bonne foi. En trouvant un nouvel objet, ils font un bond de 60 ans dans le temps.
On change d'époque, non?
Mais où sommes-nous?
Ben, si je me souviens bien du tableau de Delacroix, à Taillebourg, face au château, pas loin du pont qui enjambe la Charente.
Mais alors, ça veut dire que l'objet qu'on trouve nous amène sur le lieu qu'il indique? Ou du moins, il y a un lien avec?
C'est clair.
Exactement.
Enfin, un truc qui s'explique.
Et Enguerrand alors? Parce que là, on n'est plus dans une écurie, donc on ne le verra pas.
En plus, il ne s'occupe plus des chevaux.
Tu m'étonnes! Il a quel âge maintenant?
Ça doit lui faire...
70 ans, Guilhem. Vous parlez de moi? Bonjour mes amis.
Enguerrand !
En effet, l'homme qui est face à eux a toujours ce regard malicieux très bleu et ses taches de rousseur rosissent toujours sous l'effet d'une émotion. Il est devenu un bel homme, grand, encore musclé. Il a beaucoup de prestance, ce qui impressionne encore plus Guillaume, Johan et Isabelle. Ils avaient jusqu'à présent un gamin en face d'eux et même s'il avait beaucoup de maturité, il restait plus jeune qu'eux. Mais là, ils sont en face d'un adulte, qui de surcroît pourrait être leur grand-père. Ils oublient dans un premier temps qu'ils se méfiaient de lui, mais lui se souvient de leur dernière entrevue.
Je crois que j'en ai tenu un secret bien lourd à porter, il me semble. D'autant plus lourd qu'il vous a éloigné de moi. J'en ai beaucoup souffert, vous savez, mais je vous comprends. Je vais peut-être vous décevoir ou vous soulager, mais je n'ai pas de pouvoir surnaturel, contrairement à ce que je vous ai fait penser. Vous m'avez fait si peur ce jour-là. J'étais si triste de vous sentir hostile à mon amitié. Le seul pouvoir que j'ai est de rêver. Oui, rêver. Mais je ne fais pas des rêves, je fais un rêve. Figurez-vous qu'un soir, alors j'étais à l'écurie, une lumière est apparue et m'a plongé dans un état proche du sommeil. J'étais éveillé, mais je ne pouvais ni parler, ni bouger. Une voix céleste m'a dit.
Tu as une mission à accomplir, Enguerrand. Toi seul peux la réaliser. Mais du futur, trois mages viendront t'aider à l'accomplir.
Vos visages sont apparus sur le mur et la voix a repris.
Jean, Guilhem et Isabeau, l'un portera la clé lumineuse, l'autre un sceau d'or et le troisième un révélateur de l'invisible. Quel que soit leur nom, tu les reconnaîtras. Une force inconnue les guidera vers toi la première fois, mais une fois le contact établi, c'est toi qui les feras venir. Il te suffira de vouloir et ils seront là. Aide-les, protège-les, apprenez à vous connaître. Et ils t'aideront.
Voilà mon seul et unique pouvoir. Je veux vous voir, j'y pense très fort, et vous apparaissez, comme par magie. En revanche, je ne maîtrise ni le lieu, ni la date, mais je sais où vous trouver. Et comme je vous l'ai déjà dit, vous n'êtes visible qu'à moi. C'est la raison pour laquelle vous m'avez fait peur la dernière fois. Je ne vous ai pas appelé, et pourtant vous êtes venu.
Dit-il en levant la main droite. Un long silence suit cet aveu qui indéniablement est sincère. Tous les quatre échangent des regards scrutateurs, et les enfants des coups d'œil particulièrement affolés. Mais personne ne brise l'instant de vérité.
Cette mission à accomplir, mes enfants, je croyais l'avoir identifiée. Mais comme nous nous sommes rencontrés le 10 mai 1179, j'ai cru que vous deviez m'aider à faire en sorte que la malédiction de Richard Cœur de Lion ne s'accomplisse pas. J'ai pensé, ils vont sauver le château, ils vont sauver Pont. Malheureusement, non. Et à présent, la guerre est déclarée entre les deux royaumes, la France et l'Angleterre. Comme l'a prédit Hildegard, elle détient la clé du mystère. J'en suis convaincu, mais elle nous laisse le soin de la découvrir. Pourquoi nous ?
Isabelle met la main dans sa poche et sent le petit bout de papier sous ses doigts. Et si c'était ça la solution ? Mais ce n'est ni une clé, ni un sceau, ni un révélateur de l'invisible. Et d'ailleurs encore, faudrait-il comprendre ces trois périphrases ?
Nous aussi, on se pose la même question. Pourquoi nous ? En plus, moi je dois...
Il n'a pas le temps de finir sa phrase. Enguerrand le pousse sur le bas-côté et roule avec lui. Un cheval passe au galop tout près d'eux, suivi de plusieurs centaines d'autres, lancés à vive allure. Johan baisse les yeux, encore sous le choc.
Merci Enguerrand.
Que Dieu te garde, Jeanne. Mais pas de temps à perdre, mes amis. Vous allez encore vivre un moment historique. Suivez-moi.
Ils suivent la troupe. Elle vient de la voie romaine et s'engage dans la prairie. L'hoste anglaise se met en place. De l'autre côté du pont, bien moins nombreuse, l'hoste de Saint-Louis lui fait face, prête à l'affronter. Mais pourquoi tant d'hostilité ? L'année précédente, le roi de France place son frère à la tête du comté de Poitou, évinçant ainsi la famille des Lusignan. Cette dernière fomente donc une révolte. Elle s'appuie notamment sur le seigneur de Pont, Renaud II, qui envoie son fils demander l'aide de son suzerain. Trop heureux de pouvoir reprendre les terres que possédait son père, le roi d'Angleterre, Henri III, vient soutenir les Saintongeais. Le règlement de compte régional devient une cause nationale. Le 16 juillet 1242, Henri défie officiellement le roi de France. Le seul seigneur de Saintonge qui refuse la conjuration et reste aux côtés de Saint-Louis est Geoffroy de Rancon, seigneur de Taillebourg, qui a une dent contre Hugues de Lusignan. Enfin, une dent, des cheveux plutôt, car il a déclaré qu'il ne les coupera que lorsque son ennemi sera vaincu. Il entretient en revanche sa barbe, rousse et soyeuse, qui fait ressortir ses yeux vert clair. Cet homme au caractère bien trempé accueille Saint-Louis en son château, situé stratégiquement sur un piton rocheux très proche de la Charente, face à l'un des seuls ponts qui permettent de passer la frontière. Rive droite, la France, rive gauche, l'Angleterre. Dans l'instant présent, chacun est sur ses terres. Qui foulera le sol ennemi le premier ? L'armée anglaise reste sur la défensive. Par sa supériorité numérique, elle pense que sa présence seule tempère le courage français. C'est mal connaître le tempérament gaulois. Lassé de ces longs moments d'intimidation immobile, Saint-Louis lance les hostilités le premier. À la tête de ses hommes, il se précipite sur le pont en hurlant
« Montjoie, Saint-Denis !»
Son épée royale joyeuse au poing. Ce coup d'audace ou coup de bluff surprend les Anglais qui ne s'attendent pas à tant d'agressivité. Ils reculent. Erreur fatale. En cédant du terrain, ils permettent à l'hoste française de suivre son souverain sur le territoire ennemi qu'elle a conquis presque sans combat. Enfin, l'armée anglaise réagit et l'affrontement se déroule dans le pré de Saint-James. Les Français gardent le dessus sur les Anglais, mais l'armée ennemie reprend vigueur en tuant, décapitant, poignardant et massacrant les Français. Les Anglais n'ont aucune pitié, ils ont la rage au ventre, ils exorcisent leur colère, mais ils sont partagés entre haine et peur. De leur côté, les Français sont vigoureux et ne baissent pas les bras malgré le peu de chevaliers qui restent. Les archers ennemis les visent. Les Français arrivent à reprendre le dessus tant bien que mal. Ils sont très peu nombreux, environ 500, et l'armée anglaise compte encore beaucoup d'hommes, même si elle a perdu bien des combattants. Soudain, du flanc gauche, l'impavide Geoffroy de Rancon surgit avec fortitude, son épée luisante et tranchante dont le pommeau est d'émeraude. En un coup violent, il tranche la tête d'un adversaire, puis coupe en deux chevalier et cheval, fait sauter la cervelle d'un troisième. Il est face à Hugues de Lusignan, reconnaissable à son blason de bandes horizontales alternées de blanc et de bleu. La tension est grande entre les deux hommes. Ils se jaugent, leurs chevaux reculent pour prendre de l'élan, et le choc est si rude que le comte de la Marche vacille. Son aume s'ouvre. Geoffroy en profite pour porter une estafilade sur son arcade gauche. Sous l'effet de la rage, Hugues le Brun pousse un hurlement terrifiant qui conforte le taillebourgeois dans sa soif de vengeance. Le sang aveugle le combattant qui doit aller se faire soigner dans une tente. Il quitte le champ de bataille honteux et désespéré, mais soulagé malgré tout de rester en vie. Au moment où Geoffroy frappe, contre toute attente, du flanc droit, Renaud II vient en soutien et prend en tenaille les Anglais, décontenancés par ce revirement de situation. Il va affronter Raymond VII de Toulouse, qui a perdu la plupart de ses terres depuis le traité de 1229. Son écu rouge est bien visible avec sa croix jaune. Le seigneur de Pont fonce vers lui avec sa lance. Il l'atteint à l'épaule, ce qui fait tomber le comte. Renaud met alors pied à terre et avec son épée transperce le haubert de son adversaire qui demande grâce et déclare donner sa soumission à Louis. Renaud lui laisse donc la vie sauve. De tous côtés, la bataille fait rage. Les deux clans ennemis sont fatigués, mais ils ne veulent et ne peuvent pas abandonner. Des corps démembrés gisent au sol. L'herbe est rouge en de nombreux endroits. Il ne reste plus que 100 Français et 200 soldats anglais. Le combat est ardu et le sang coule en abondance. Les Anglais faiblissent, désorientés, déstabilisés. Sans leur roi qui est resté loin de la prairie, ils sont pris par une peur effroyable et essayent de s'enfuir. C'est sans compter sur les archers français qui les touchent en plein dos. Ils tombent raides morts. La bataille est enfin terminée. Enguerrand, quant à lui, n'a pas participé au combat. Il a évoqué son âge pour décliner l'affrontement. Il est resté dans une tente à soigner les chevaliers, songeant à la malédiction divine. Puis, son aide achevée, il rejoint Isabelle et les garçons.
Enguerrand, nous voulions nous excuser pour avoir douté de toi et de ton amitié.
En disant ces mots, Isabelle sort de sa poche le petit bout de papier où la comète est brodée sur la tapisserie de Bayeux, Johan celui de la bataille qui vient d'avoir lieu, et Guillaume la béquille de la crypto-miracle de Rioux. Ils expliquent comment, en suivant leur ballon tombé dans un trou, ils sont arrivés dans une galerie. Ils racontent le rocher avec un livre figé, le prisonnier qui leur fait si peur, la grille qui délimite les deux univers, leur téléphone qui correspond avec les papiers puisque chaque nouvel élément trouvé les fait changer de date. Enfin, ils montrent le dessin de l'homme au bras écarté dans le ventre maternel.
C'est le dessin d'Hildegarde. Regardez, elle s'est peinte en bas à gauche. Il représente l'homme et l'univers. Tous les deux sont des créations divines bâties, selon le même schéma, les mêmes organisations et proportions. Ils sont indivisibles. L'homme est le microcosme et l'univers est le macrocosme, parce que l'homme est le miroir du monde. Il serait le modèle de vos papiers alors. Pourquoi ?
Pour nous faire voyager. Chaque étape est importante.
Oui, regarde, la comète nous a conduit à l'hommage de Geoffroy III. La béquille à Hildegarde et le cheval à la bataille d'aujourd'hui.
Enguerrand pose le dessin sur ses genoux, puis place les éléments dessus, à l'endroit où ils sont supposés être. Rien ne se passe.
Nous aussi on a essayé. Mais quel est le lien entre tous ces éléments ?
Hildegarde a laissé ses dessins à l'hôpital des pèlerins, le jour de son inauguration. On l'a trouvé dans le scriptorium il y a quelques années. Elle n'a rien dit à personne. C'est bien que sa découverte a une signification. Sinon, pourquoi l'avoir cachée ?
Ce qui est étonnant, c'est que ce dessin sera repris 5 siècles après par un peintre très admiré dont on célèbre l'anniversaire justement cette année chez nous. Le pire, c'est que tout le monde croit qu'il est de lui alors qu'il a copié Hildegarde.
L'abbesse n'est donc pas connue chez vous ?
Non, Enguerrand. Pourtant, elle conseille de vivre selon une mode qui est la nôtre actuellement.
Étonnant, c'est sans doute le ciel qui l'a voulu ainsi. Et vous me dites que chaque papier vous a fait basculer à une autre date ?
Oui, c'est exact.
Alors c'est Hildegarde elle-même qui est à l'origine de notre rencontre ? C'est elle qui nous a fait nous rencontrer ? J'en suis sûr. La lumière, c'est elle.
Et la voix aussi ?
Comment ça, la voix ?
Johan est très embarrassé pour répondre. Il a peur de la moquerie de ses camarades.
Je l'entends.
Toi, Jeanne, tu es béni des dieux comme notre chère abbesse ?
C'est-à-dire que, à deux reprises, j'ai entendu une voix.
Il veut poursuivre et expliquer, mais sa confession est interrompue par les cris de joie que lancent les Français. Ils ont bon espoir de reprendre Sainte le lendemain. En effet, au pied des remparts de la ville de Hugues de Lusignan, le roi Louis IX, le lendemain, remporte une bataille historique qui met fin à près de 100 ans de guerre entre les deux pays. Puis, il fait dresser le 1er août une tente au milieu de son camp qu'il installe devant le château de Pont. Les deux rois se regardent et contiennent leur mépris. Henri ravale son humiliation, Louis savoure sa victoire. Autour, les nobles retiennent leur respiration. Le vaincu se penche le premier, prend la plume tendue et signe. Le Français fait de même. Renaud termine en apposant lui aussi son nom. Puis, le sire de Pont, armé de toutes pièces, se présente au roi et lui dit
« Sire, je viens à vous pour vous faire hommage de ma terre de Pont et vous supplier de maintenir en la jouissance de mes privilèges. »
Le roi le reçoit et lui donne par gratification l'épée qu'il a à son côté. Viennent ensuite les nobles et seigneurs poitevins et saintongeais qui ont combattu aux côtés du roi d'Angleterre. Ils signent à leur tour leur soumission. Les possessions territoriales de la puissante famille des Lusignan Taillefer sont divisées en 5 parties et la Saintonge entre pour la première fois dans le domaine capétien. Le seigneur de Pont devient le seigneur le plus puissant de ses terres en remerciement de son soutien. Il n'a qu'un seul suzerain, le roi. Il a le droit de battre monnaie et d'avoir haute, moyenne et basse justice, c'est-à-dire qu'il peut délimiter son territoire avec des poteaux à ses armoiries ou vérifier l'application des édits royaux. Puis, toutes les signatures faites et sceaux apposés.
C'est pour le bien de mon peuple, de mon pays, la France, que je fais cela. J'ai signé ce traité pour vous, alors soyez fiers de votre roi. Soyez fiers de votre pays.
Know that it is not because the war is over that we have lost. People die for this country, for their families, but they always over to survive. Instead of feeling sorry for their spell, rejoice for the living, rejoice to be alive and proud of for our country. Sachez que ce n'est pas parce que la guerre est finie que nous avons perdu. Des gens sont morts pour ce pays, pour leur famille, mais ils ont permis à d'autres de survivre. Au lieu de vous apitoyer sur leur sort, réjouissez-vous pour les vivants, réjouissez-vous d'être en vie. Je suis fier de notre pays.
Toute l'assistance applaudit de joie et de fierté. La haine est enfin finie, enfin ils sont en paix. Enfin, ils vont pouvoir vivre heureux et sans peur. Ils sortent de la tente à la suite des deux rois et chacun retourne dans son camp. Henri rentre en Angleterre aussitôt et Louis est convié à rester au château de Pont quelques jours.
La malédiction semble écartée. Pourtant, Saint-Louis va vivre un autre moment crucial de sa vie.
Isabelle, Guillaume et Johan vous disent à demain même heure
pour la suite de Retour vers le passé sur Radio Pont.